D'abord, la matière du sacrement de mariage. Dans tous les sacrements, il y a une matière et une forme. Dans tous les sacrements, une matière et une forme. Absolument capitale à comprendre.
Voilà, absolument capitale.
Alors, dans le mariage, il faut qu'il y ait une relation entre l'homme et la femme, entre la fiancée et la fiancée, entre l'époux et l'épouse. Il faut qu'il y ait une relation qui soit une relation humaine. Si la relation qu'il y a entre les deux n'est pas une relation humaine, il n'y aura pas la matière. Or, il ne faut pas faire trop vite en disant attention, attention, moi je l'aime et il m'aime, nous nous aimons. La relation est humaine. Il faut faire très attention parce que c'est pas parce que la femme, de son côté, a une maturité humaine suffisante et l'homme, de son côté, une maturité humaine suffisante que la relation, elle, est humaine. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que la structure de la relation n'est pas nécessairement structurée par le degré de profondeur de l'homme, d'une part, et de la femme, d'autre part. C'est la relation qu'on regarde, sur quel plan on s'unit. Je l'ai dans la peau. On suppose que quelqu'un disant qu'il est en concubinage, qu'il vienne voir le prêtre, dit mon père, nous allons nous marier. Pourquoi? Ben, parce que nous aimons, pour nous il n'y a pas de doute possible, puisque ça fait 6 ans que nous vivons en concubinage, et vraiment il n'y a pas de problème, on est certain de notre coup et tout. Ah bon? Ah ah. Eh bien là, en général, je refuse le mariage parce que justement, il y a eu concubinage et il y a très forte probabilité pour que la relation ne soit pas humaine. Très très forte probabilité. C'est-à-dire que la relation s'est située sur un plan sexuel, et d'ailleurs je vérifie en posant la question suivante. Est-ce que s'il n'y avait pas eu harmonie sexuelle, est-ce que vous auriez demandé le mariage? Autrement dit, est-ce que c'était une condition sine qua non? Alors c'est bizarre, mon père, bien entendu, pas marié dans ces cas-là. Alors à ce moment-là, ça prouve que le centre de gravité de la relation se situe au niveau physique. Il y a 33 degrés de profondeur dans les relations de l'homme et de la femme. Vous voyez, c'est une espèce d'arbre, une espèce de thermomètre extraordinaire, la relation entre l'homme et la femme, avec les 33 degrés. Alors si le centre de gravité est... Et le centre de gravité, c'est la condition sine qua non. C'est la condition sine qua non qui donne le signe du centre de gravité. Alors là, vous n'avez qu'à interroger ceux à qui j'en ai déjà parlé, ou qu'est-ce que c'est exactement les 33 degrés. Et puis ils vous expliqueront. Mais en tout cas, ce que Dieu vient sacramentaliser, transsubstancier, c'est la relation de communion de personnes au plan naturel qu'il y a entre l'époux et l'épouse. S'il n'y a pas communion de personnes, au niveau de la personne, il n'y a pas matière du sacrement. D'accord? Bon, alors si je me marie parce que je l'ai dans la peau, c'est gênant. Si je me marie parce que j'ai eu le coup de foudre, c'est gênant aussi. Parce que le coup de foudre, c'est les degrés de relation passionnelle. Je suis amoureuse, littéralement, de Dieu. Complètement amoureuse. Et donc je vais me marier. Oui, mais seulement, attention, la passion a pour caractéristique d'être partagée entre le monde des hommes et le monde animal. C'est un degré de relation animale, c'est un degré de vie d'animalité, de sensibilité interne. Et le propre de la passion, c'est qu'elle est toujours transitoire. Alors, dans ce cas, il faut savoir que quand je suis amoureux fou, il faut savoir que dans ma vie conjugale, j'aurai, et mon conjoint ici probablement, 4 ou 5 fixations affectives passionnelles à l'extérieur de la relation conjugale proprement dite. Donc, si je pose la question en disant, si tu vois qu'Iphigénie, mon cher Alphonse, tombe amoureuse, folle, de Jules, comment tu vas prendre ça?
Ah, oh, bon, c'est épouvantable, je n'accepterai jamais.
Jamais, 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 c'est pas possible. Ah bon, bah alors ça va. Vous ne pouvez pas vous marier. Condition sine qua non.
Ah, on sera toujours amoureux, on en est sûr.
Ah, bon, alors si c'est ça, vous ne pouvez pas vous marier. Impossible. C'est casse-gueule à tous les coups. On ne se marie pas parce qu'on est amoureux. Sûrement pas. J'aime bien raconter cette histoire. Quand je faisais un pèlerinage à Chartres, j'étais responsable général du pèlerinage de Chartres des étudiants. 73, je crois. Responsable technique, parce qu'on était toute une équipe. Et alors, j'avais fait le pèlerinage avec tout le monde. Alors, on couchait dans des granges, comme ça. De paille. Ah, plusieurs centaines, quand vous avez presque tous fait le pèlerinage de Chartres. Alors, à un moment, j'étais endormi, là, sur la paille, dans mon sac de couchage. Et puis, on était tous, bien sûr, les uns sur les autres. Et le lendemain matin, il y avait au-dessus de moi une espèce de cage avec un tourtereau et une tourterelle extraordinaire qui roucoulait. C'était passionnel, c'était pas l'époque du rut, pas du tout. Alors c'était passionnel, c'est l'amour. Le tourtereau et la tourterelle roucoulaient, ils sautaient, ils jouaient, ils étaient heureux ensemble, ils étaient amoureux l'un de l'autre, c'était extraordinaire à regarder. Maintenant que j'ai la voix cassée, j'arrive pas à l'imiter. Et puis, alors, je fermais les yeux, etc. Et puis tout d'un coup, j'avais l'impression d'avoir une espèce de stéréo, parce que c'est ça. Et puis là, sur ma gauche, le même bruit, exactement le même. C'était un pèlerin et une pèlerine qui étaient dans le même sac de couchage, mais tout à fait chaste, parce que c'est un pèlerinage quand même, et qui roucoulait exactement le même bruit. Ah, j'avais dit ça, c'est trop fort. Je vous assure, c'était impressionnant. Ouais, c'est très impressionnant. Donc, vous voyez, ah, Gladys, se marie pas à cause de ça. Ouais, sur le point de vue du corps, j'ai dans la peau. Ah, elle l'a retrouvé, c'est bien. Alléluia. Merci Bernard. Elle a retrouvé son argent. Ah, c'est lui qui l'avait dit. Il avait dit que puisque Jésus est dans le cœur, c'est impossible qu'elle ne le retrouve pas. Il suffit qu'il y en ait un qui ait la foi pour que tous soient sauvés. Merci Jean-Christophe. Allez. Donc vous voyez, au point de vue du corps, il y a 4 degrés au début, il y a 4 orientations dans la relation humaine au point de vue du corps. La première, si vous voulez, c'est l'aspect de... La première orientation, c'est celle de l'initiale, c'est que vous ne pouvez avoir une relation qu'à partir du moment où vous avez eu un contact par les sens externes. Vous avez entendu au téléphone, la voix de ce type-là, extraordinaire, et alors vous avez vibré en entendant sa voix. Et il a une voix, je ne sais pas, ça vous a littéralement mis en relation avec lui. Voilà, vous l'avez vu, il vous a... Oui, vous avez...
Vous avez
vibré, votre corps a été... C'est pas du physique, c'est la rencontre par les 5 sens externes, plus ou moins par les 4 sens externes autres. Vous voyez, l'odeur, la voix et la lumière, le corps, vous l'avez vu. Même si c'est pas beau, ça fait rien, vous savez, tiens, il y a quelque chose. Après le sens du toucher qui est la deuxième orientation, qui fait que simplement, vous avez senti qu'une aimantation, il y a un feeling physique, une espèce d'aimantation, pas sexuelle, mais physique, entre les deux, une espèce d'attirance à notre corps. La troisième orientation, c'est le point de vue sexuel. Et la quatrième orientation, c'est le point de vue de l'éros, c'est-à-dire la splendeur du corps, ce qu'on appelle la séduction. Ce que peuvent facilement faire les femmes, vous voyez, elles peuvent se balader comme ça. Et le type qui est là derrière, uniquement par le corps, la femme peut très bien dire « je me balade » et voir très bien si le type la regarde ou pas. Elle peut très bien séduire. Les hommes sont incapables de faire ça. Incapables. Mais le point de vue de l'éros, donc un point de vue beaucoup plus, c'est physique. Bon, les points de vue passionnels ont 11 orientations différentes, les 11 passions, qui fait qu'un homme se lie à une femme selon 11 modalités. Au début, dès que vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, la relation est nécessairement au plan zéro, au plan 1, je veux dire. Et elle doit, comme la tige, puisque l'amour est une vie, évoluer, se maturer, éclater, faire sortir, j'allais dire, son germe, percer la terre, pousser, se ramifier, faire naître un petit bouton, faire éclater le bouton, pourrir, donner le fruit, et enfin être manduqué. Vous voyez, il y a toute une évolution. La relation doit évoluer. Et tant qu'elle n'a pas évolué jusqu'au fruit, il ne faut pas s'arrêter à la fleur, on n'a pas la matière du sacrement de mariage. C'est pour ça que il faut évidemment crever les 11 plafonds de la relation passionnelle. Il est impossible de crever les 11 plafonds de la relation passionnelle s'il n'y a pas la chasteté, parce que c'est exactement comme pour la vigne. Si vous ne coupez pas les sarments du bas, la sève ne monte pas. Et si la sève ne monte pas, ça va peut-être donner des petites grappes de raisin là-haut. Mais quand vous allez les manger, ils seront ignobles. Et quand vous en faites du vin, ça fera du vinaigre. Et ça ne se conservera pas. Vous voyez, il y a une espèce de phénomène de la relation homme-femme qui a besoin d'une taille pour que la sève monte. Et que la relation se mature, s'approfondisse et devienne humaine. Donc les 11 passions, je ne vais pas vous faire la litanie de la genèse des 11 passions dans la relation. Ce serait un peu trop long. Au-dessus, tout de suite après les 11 passions, il y a encore un autre point de vue qui n'est pas encore l'amour humain. Vas-y.
Comme tout à l'heure, tu parlais, tu disais que tu n'es pas d'accord avec ceux qui se marient parce qu'ils sont amoureux.
Oui.
C'est ça?
Oui.
Tu n'es pas d'accord?
Oui, je suis d'accord. On peut très bien être amoureux. Oui.
Non, mais parce que il faut... Il faut être quand même amoureux, parce que si on parle il est vrai que dans une relation, avant de se marier, il faut se connaître. Hein, il faut bien se connaître, il faut avoir une amitié très profonde. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas amoureux, on reste toujours amoureux.
Tout à fait.
Oui, mais c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi.
Alors voilà, il pose la question suivante. Il dit, lorsque j'arrive, par exemple, au 18e degré, les 17 degrés sont encore présents. Tandis que quand je suis encore qu'au cinquième, les supérieurs ne sont pas là. Donc c'est pas parce que j'ai atteint un amour, par exemple, d'amitié, que je ne suis plus amoureux. Au contraire. Et seulement, ce n'est pas le point de vue du fait que je suis amoureux qui commande tout. Tu vois la différence? Donc, c'est quand c'est le point de vue de l'amoureux commande tout, que tu peux pas te marier, parce que ce truc justement d'être amoureux, c'est transitoire. Or le mariage s'opère au niveau de la personne, donc à un plan différent du transitoire. Il implique l'éternité, il implique l'immortalité, il implique la vie et la mort. C'est à cause de ça. Hein. Bien sûr qu'à partir du moment où je suis dans une relation d'amitié homme et femme, ça ne supprime absolument pas, à l'intérieur de la relation, la dimension sexuée de la relation, bien entendu. Même si, j'allais dire, on aura retranché d'une certaine manière le point de vue sexuel proprement dit. la relation sera d'autant plus sexuée. C'est pas pareil, le sexué, la distinction archiclassique entre le sexué et le sexuel. Bon. Donc vous voyez, hein? Donc vous voyez, après avoir crevé les plafonds, ce qu'il y a de marrant, c'est que quand on fait des préparations au mariage, c'est génial parce que on s'aperçoit qu'à un certain moment, la relation plafonne. Au bout d'un certain temps, elle plafonne. Souvent, au plan personnel, ça plafonne, ou alors au plan romantique. Alors, parce qu'à un moment donné, ils font plus d'efforts. Ils continuent, ils roucoulent ensemble, ils font plus d'efforts. Au début, on est obligé de faire des efforts. À un moment, on fait plus d'efforts. Alors, on plafonne. Si la relation était à ce moment-là, par exemple, dans la passion de colère, où est-ce que ça donne? Ça plafonne, ça, la passion de colère, et ça demeure. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se quitter. Ils ne peuvent pas, mais ils se bourrent sans arrêt le nez, sans arrêt, dans des agressivités continuelles. Et la relation demeure là. Mais si ils continuent à faire toutes sortes d'efforts, justement de taille, justement pour se donner, pour se choisir à nouveau, pour se réengager, pour prier l'un dans l'autre, l'un pour l'autre, à ce moment-là, on crèverait le plafond. La relation crève. Maturerait, sans arrêt, se choisir, se donner de manière encore plus profonde. Après le point de vue passionnel, qui est le point de vue animal, on aspire bien entendu à un amour plus profond et à atteindre dans l'autre la personne. Mais il se trouve que par exemple la femme n'a pas le degré de profondeur et de maturité suffisante pour cela. Alors on voudrait bien. Mais on cherche à crever le plafond, puis ça rebondit. Alors on arrive maintenant dans des relations hommes-femmes qui sont propres à l'homme, qu'on ne trouvera pas par exemple chez le taureau, chez la tourterelle, qui sont propres à l'homme, mais qui sont quand même des déviations qui viennent des conséquences du péché originel. Et qui viennent du fait que dans les sept dimensions de l'homme que je vous ai montré l'autre jour sur le tableau, au lieu de vivre justement la relation au plan de la contemplation qui est la troisième colonne et de l'amour qui est la colonne d'en gauche, comme je plafonne au point de vue spirituel ici, je retombe dans les quatre autres dimensions en écartant bien sûr celle colonne droite qui est la colonne de l'adoration puisque j'ai pas de dimension spirituelle, et je tombe et je vis la relation au plan artistique, au plan communautaire, au plan idéalisation, au plan sentimental. Alors voilà, ça donne ceci. J'idéalise. L'idéalisation est très intéressante. Moi, je vais me marier toujours avec quelqu'un que je ne demande pas qu'il soit très intelligent, enfin, qu'il ne soit pas trop bête non plus. Je voudrais quand même qu'il soit quand même de à peu près même éducation. Je voudrais quand même que c'est un bon éducateur pour mes enfants, je quand même qu'il ait la foi. Je voudrais quand même aussi qu'il ait ceci. Enfin, ouais, vous idéalisez, en fonction du reste des expériences, c'est-à-dire d'amitié que vous avez eue. Puis je voudrais quand même qu'il. Etc. Donc vous faites un petit schéma. Et puis vous rencontrez un jour Jean-Charles. Et vous dites, ça y est. Parce que vous êtes dans un état de besoin tel. Vous êtes dans un état de besoin abstrait qu'à ce moment-là, vous dites, voilà Jean-Charles, c'est juste pour être aussi bien Alphonse, Adolphe. Vous êtes dans un état de besoin tel que vous dites, ça y est, c'est Jean-Charles, ça y est, c'est mon idéal. C'est lui, c'est tout à fait mon idéal. Et vous projetez votre idéal sur lui. 5 ans après 3 ans de mariage, 2 ans de fiançailles. 3 ans de mariage, vous dites, mais c'est pas du tout avec ce que je crois, c'est lui que j'ai connu. J'ai complètement l'impression de voir complètement quelqu'un d'autre. Complètement, c'est pas du tout lui. Mais dis, t'es un gros bêta, ma petite fille. Lui, il a pas changé.
Seulement, maintenant, tu le connais. Mais t'avais projeté ton idéal sur lui. Il ne faut pas lui que tu aimais. C'était ton idéal. Tu l'avais enfermé à ta critère. Et alors, heureusement que maintenant, tu le connais tel qu'il est. Ah oui, mais j'ai l'impression qu'avant, il m'aimait, j'ai l'impression qu'il m'aimait plus. Mais c'était une impression. Et non, il est pas du tout pareil avec moi, il ne satisfait plus les aspects, je suis pas heureuse, etc. C'est effrayant, tout, c'est invivable, c'est l'enfer et compagnie. Il n'aime pas, disons, il reste à la maison ou pas? Bah alors, s'il reste à la maison, c'est que tu t'aimes. Choisis. Bah, inenvisageable pour lui de sortir. Donc il choisit tous les jours, parce que tous les jours il rentre le soir chez toi. Dans tes bras. Ah oui. Donc les impressions, tu peux te les mettre au chien. L'équivalent au point de vue du cœur, au point de vue de l'appétit sensible, c'est le romantisme ou le sentimentalisme. Alors le romantisme, c'est très très bien. Est-ce que vous vous aimez? Ah oui, ça mon père, on s'aime beaucoup. On s'aime beaucoup. La preuve, c'est que quand on est ensemble, on parle, pas besoin de parler, on est bien. Aussitôt qu'on est avec quelqu'un d'autre, on s'embête, etc. Mais quand je suis avec lui, c'est merveilleux. Je suis là et je suis bien. Je suis bien. Ça, c'est l'amour sentimental, Roméo et Juliette, sur la petite île. Et alors, le fait qu'il soit là, le fait qu'elle soit là à côté de moi, même si, j'allais dire, il n'y a pas... On est bien, je suis dans cette espèce d'état merveilleux, je suis dans la petite boule de pacification intérieure, de tranquillité, de repos, de bonheur, ce qui montre bien que l'homme n'est pas fait pour le bonheur, puisque c'est une déviation du péché originel, ceci, n'est-ce pas? Il est fait pour le bien, ce qui est très différent. Alors vous êtes dans votre petite boule, mais je dis, c'est pas de l'amour ça mon petit. C'est pas de l'amour, parce qu'un jour, tu seras, c'est ce que j'expliquais aux deux fiancés, je dis, la vie commune, c'est ça, oui, c'est peau contre peau. La vie commune, entre l'homme et la femme, peau contre peau. On dit, plus comme c'est agréable, c'est tout, c'est merveilleux. Puis après ça devient rouge, puis après ça brûle, puis après il y a des cloques, puis après les cloques, puis après c'est chair contre chair. Le point de vue sentimental n'est pas une amitié humaine. Et comme ça rejoint le point de vue de la dimension de l'homme qui est la vie. C'est-à-dire que je suis là, il est là. Et c'est une qualité très très grande de vécu à ce moment-là. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une qualité très grande de vécu à ce moment-là qu'il y a l'amour. Parce que la qualité très grande du vécu, c'est moi. Et l'amour, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Troisième déviation, c'est la dimension de l'art, le travail. Deuxième colonne. L'autre, c'est une... Oh, putain, cette Marie-Chantal était extraordinaire, elle est douce. Elle est docile, elle est d'une souplesse extraordinaire, une pâte à modeler merveilleuse. Je vais pouvoir en faire quelque chose d'extraordinaire, lui donner une splendeur particulière, le point de vue de l'éducation. Grâce à moi, elle ne fumera plus de cigarettes, grâce à moi, elle va devenir bien élevée, grâce à moi, je vais la sauver, je vais lui donner la foi, je vais lui donner la... Bref, je vais la transformer. C'est une matière sur laquelle tout ce que je porte en moi, que je considère comme étant quelque chose de beau, de grand et de bien, je vais le mettre sur elle pour qu'elle grandisse. Exactement comme un artiste regarde la matière en disant cette matière-là est exactement la matière qu'il me faut. Point de vue de l'éducation. L'éducation, c'est pas de l'amour, c'est de l'art. C'est du know-how. Alors, vous voyez, on reconnaît bien hein, toutes ces petites déviations.
Et la quatrième, c'est le point de vue politique, si vous voulez, le point de vue de la société. C'est le fait, ah ben voilà, on fait un pèlerinage, c'est merveilleux. Et nous avons tous les deux, nous nous entendons parfaitement bien, parce que nous avons la même charge, tout à l'heure, cellerier, cuisine, tout ça. Et jamais on s'est si bien entendu que depuis que... Et alors ça nous a littéralement convaincus. Bon, alors, je suis étudiante, je prends des cas précis, hein, je pense que c'est pas vous, c'est pour m'amuser, mais quelqu'un qui était très bien étudiante, on fait un projet d'architecture, on s'entend parfaitement bien, un projet d'architecture, jamais, j'ai trouvé une harmonie si grande, on s'entend très bien, c'est cool comme dans de l'huile. Mais qu'est-ce qui fait l'unité? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est l'autre? En réciprocité, est-ce que c'est l'œuvre que nous faisons qui fait l'unité? Si c'est l'œuvre, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour humain. C'est une relation qui est humaine, c'est une relation de coopération. Mais ce n'est pas une relation d'amour, d'amitié. Donc voilà, ici, quatre, rebondissements. En raison de fausse maturité, sur des parties exogènes à l'amour, qui font qu'il n'y a pas matière du sacrement de mariage. Vous voyez, comme il faut être extrêmement lucide. Il faut qu'il y ait un amour d'amitié. Alors ça fait 5 plus 11 plus 5, ça fait 26. 26e, c'est ça, 5 plus 11 plus 4, pardon, ça fait 20. Donc 21e degré de profondeur.
Non, j'ai une question, si tu considères qu'il n'y a pas matière dans ces cas-là et qu'il y a quand même sacrement mariage qui est donné, est-ce qu'il a exactement la même valeur que s'il était donné
Alors, on considère que les gens qui sont mariés dans les années 57 à 67 à peu près, même à 77, pardon, en 20 ans, à peu près 60% des gens qui sont passés, catholiques, je parle des catholiques, sont passés à l'église sans recevoir le sacrement de mariage. À peu près. C'est pour ça d'ailleurs que l'Église est tellement large aujourd'hui pour demander aux gens non pas l'annulation, parce qu'on ne peut pas annuler un sacrement. C'est irrenversable un sacrement, c'est indissoluble un sacrement. Mais l'Église peut très bien faire en effet une petite enquête pour voir s'il y a eu un jour un sacrement ou pas, pour voir si le sacrement existe ou pas. Et c'est très facile à vérifier, très facile. Parce qu'il suffit de voir, en effet, si du début, j'allais dire du mariage, jusqu'au jour du divorce, il n'y a jamais eu apparition de l'amitié, ce qui est assez facile à voir. C'est pour ça que je crois, je n'oserais pas dire d'erreur, mais le nombre de discernements sur la validité des mariages dans le monde, c'est affolant. Des piles entières. Je ne sais plus si tu connais le chiffre exact. Je ne sais plus, je crois que c'est 300 000. Hein. 300 000 demandes d'annulation, de discernement, pardon, pour discerner sur la validité du sacrement de mariage. Et évidemment, plus des deux tiers qui sont considérés comme totalement invalides. Et sur les deux tiers qui sont gratuits, puisque les gens n'ont pas toujours les moyens de payer les deux jugements et enquêtes de tribunaux de la Rote qui permettent d'aboutir à ce résultat, ce qui montre bien que c'était complètement faux de dire que c'est réservé aux gens style Caroline de Monaco. D'ailleurs, Caroline de Monaco, j'étais allé à Reims, je me rappellerai toujours, et un jour je devais ranger les greniers de Reims et je tombe sur un Paris Match qui datait d'il y a 12 ans ou 13 ans avant, où elle s'était mariée, et il y avait l'interview justement sur ça, son amitié avec son fiancé de l'époque. En lisant le truc, vous voyez de manière absolument évidente qu'il n'y avait pas eu sacrement de mariage. Absolument évidente. Son mariage, son premier âge, était totalement nul. Il n'y avait pas de sacrement. Alors comment est-ce qu'on faisait avant? On faisait de la manière suivante. On disait, on est dans une société qui est catholique, chrétienne, saine. Bon, d'accord, ils ne sont pas mûrs, ils se marient, mais... J'allais dire, la pression sociale est tellement forte que même s'ils vont avoir des problèmes, ils vont crever les plafonds par soi-même, j'allais dire, et l'amitié va naître au bout de 7 ans, 10 ans. Et dès que l'amitié naît, paf, le sacrement qui avait été donné en puissance le jour de la cérémonie s'empare de la matière, et ça y est, le sacrement est indissoluble à partir de ce moment-là. Aujourd'hui, on ne peut plus faire comme ça. Pourquoi? Parce que on est dans une société où apparaît un problème, paf, c'est le divorce. Donc, on ne peut plus faire ça. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas vous marier devant, en conscience, vous ne pouvez pas vous marier, vous pouvez même sans exiger, j'allais dire, une préparation extrêmement sérieuse au mariage. Pour se préparer, par exemple, au sacerdoce, nous mettons 7 ans. Pour se préparer au mariage, 7 ans à jet continu. Ah, j'ai continué, on ne fait que ça. Donc, pour le mariage, ça devrait être quelque chose d'équivalent. Donc, vous vous préparez au mariage avant de rencontrer l'époux, bien sûr. Il faut 7 ans de préparation. Donc, vous voyez, disons, je vous accorde 4 ans. Je vous accorde 4 ans de préparation. Si vous n'avez pas encore commencé une formation à la recherche de la vérité, à la maturation de votre cœur, à la vie spirituelle. Vous commencez maintenant, vous êtes sûr qu'on ne trouverait pas avant 4 ans.
On ne posait plus de questions pendant 4
bon.
Ans.
Bon.
Il a dit bien dans une phrase.
Pardon, j'entends pas. Entre un chrétien et un non-chrétien, alors il peut très bien y avoir une amitié humaine. Et même entre deux non-chrétiens. Eh bien, entre deux non-chrétiens. Par exemple, tu prends un non-baptisé et un non-baptisé. Un non-baptisé homme, un non-baptisé femme. Et une amitié très profonde entre deux. Ils se marient devant la nature et devant les hommes. Le mariage est indissoluble. C'est un sacrement. Pour l'Église, ce mariage-là est indissoluble. Donc, ils ne peuvent pas divorcer pour se marier avec quelqu'un d'autre.
Même s'ils
ne
sont pas mariés
à l'Église.
Oui,
indissoluble. Parce que, justement, il y a la matière et ils l'ont fait devant ce qui, pour eux, était l'absolu. Donc, il y a eu sacrement. Il y a eu sacrement puisqu'ils l'ont fait implicitement. Mais l'Église sait que le sacrement est explicite, puisqu'il y a la matière et la forme. Donc sacrement, l'union, le mariage est indissoluble à ce moment-là. Si c'est entre un baptisé et un non-baptisé, il peut très bien... Alors on demande à ce moment-là au pape ou à l'évêque une dérogation pour recevoir le sacrement chrétien du mariage. C'est ce que j'ai fait tiens, récemment, je crois, quand Marie-Odile est venue me chercher avant que nous arrivions à Toulouse. Je venais donc de célébrer un mariage entre une non-baptisée juive et un de mes cousins qui était catholique fervent. Alors, il a fallu demander une dérogation à l'évêque, après avoir fait une moult enquête, vérifié qu'il y avait bien la matière du sacrement, et fait signer des papiers d'engagement absolument trucs sur le respect mutuel. Alors, à ce moment-là, il y a sacrement, puisqu'il y a la matière, et puis, puisque, et ça s'est passé de la manière suivante, on ne fait pas de messe de mariage, c'est interdit dans ces cas-là, on ne fait pas de messe, c'est absolument interdit, et du coup, nous avons pris le Saint-Sacrement, nous l'avons exposé sur l'autel, on a eu la liturgie, on a mis un peu d'hébreu, bien sûr, on a chanté un peu en hébreu, je leur ai fait chanter un peu de trucs, je vois Israël, et tout ça, Et puis, on a fait une lecture, j'aurais fait un petit sermon. Et puis après, on a exposé le Saint-Sacrement. On a adoré le Saint-Sacrement sur la musique de Mission. Je ne sais pas si vous voyez ça.
Mission.
Je peux vous dire qu'évidemment, les trois quarts là-dedans, l'assemblée n'était pas très nette, hein, d'un point de vue spirituel. Elles, ils se sont mis tous les deux à genoux. Et on a adoré le Saint-Sacrement comme ça. On avait mis un maximum de luminaires, de l'encens qui fumait à tire à la radio. Je peux vous dire que là, ça a duré, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Puis nous sommes levés, et devant le Saint-Sacrement, ils ont échangé le consentement. Alors elle s'était mise à genoux devant le Christ. Était tout à fait d'accord parce que elle trouvait dans le cœur de son mari, de son époux, la foi suffisante pour croire dans la présence réelle. Ce qui était signe quand même qu'il y avait de l'amitié.
Il y a de très chance pour qu'elle se convertisse. Je crois que vous la baptisez un jour.
Elle est baptisée par le sacrement de mariage. Mais sanctifiée, il ne faut pas oublier que le mariage sanctifie. Donc, elle est sanctifiée, ce que dit saint Paul. L'homme sanctifiera sa femme, la femme sanctifiera son mari. Privilège polygamie. Donc, elle est sanctifiée, la sanctification, c'est un baptême. Oui.
Oui.
À ce moment-là, si un couple, ouais, si un ménage bloque complètement, coince, complètement arrive à des impasses, etc., comment est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut qu'il se sépare? Est-ce qu'il faut que... Comment faire? Ben d'abord, il faudrait qu'il demande conseil. Ce que je vous ai dit, en prenant le chemin de la vérité et la vie, il y a un moment dans le processus de l'amour où il faut être capable de demander conseil. Pour savoir quels sont les meilleurs moyens pour aboutir à la fin. Alors, pardon, attends. Oui, mais souvent, c'est des gens qui sont complètement enfermés sur eux, dans leur schéma et tout. Donc, il faut qu'ils demandent conseil. Ils demandent conseil et qu'ils prennent les meilleurs moyens. Mais il est bien évident qu'un des moyens, voilà, c'est sûr, c'est de revivre, comme dit saint Paul, la séparation pour la prière, pour un temps. À ce moment-là, ils vivent en effet... Dans un état, le centre de gravité de la relation, c'est le signe que le centre de gravité de la relation est au niveau de la, une espèce de haine, si tu veux. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre, qui pourtant sont dans un état passionnel de haine. C'est un état d'amour, la passion de haine. C'est un état d'amour. Ma chérie, arrête de faire ça. Ah, je te déteste. J'en sais rien. Alors, du coup, là, le plafond d'après la passion de haine, c'est la fuite. C'est la fuite. La passion de fuite, c'est une des 11 passions. Alors, il faut faire attention, on a peut-être une tendance à ce moment-là à vouloir se séparer un petit peu trop vite, mais on obéit à ce moment-là, si tu veux, à la locomotive de la relation, c'est une passion. Donc, on ne conseillera jamais à quelqu'un d'obéir à ça. Et on lui conseillera au contraire de trouver des moyens adaptés pour précisément crever le plafond de la passion de suite, sans obéir à la passion de suite. Tout en accordant quand même à la passion de suite de pouvoir se vivre pour qu'elle puisse s'en crever dans son propre plafond. Donc, une bonne séparation, ce que dit saint Paul, pour la prière, mais pour un temps. C'est pour ça qu'on établit de temps en temps, à l'intérieur du mariage, des périodes de continence, de chasteté. On revit, allez, on va revivre. Bon. 6 mois de fiançailles. Frères et sœurs, c'est merveilleux. Voilà. Extraordinaire.
C'est pas possible d'arriver à un degré d'amitié humaine sans la chasteté.
Impossible d'arriver à une amitié humaine sans chasteté. Impossible.
Il y a même des non-chrétiens qui s'en rendent
compte. Oui, les non-chrétiens s'en rendent très bien compte aussi. Ça, je peux vous le dire, alors là, ça, c'est la multiplication des gens que je vois. Je peux vous dire, alors ça, ils sont tous unanimes. Unanimes. Parce que moi, je vois des gens, je leur parle, ils font c'est l'expérience. Et on pourrait dire que c'est vrai pour certains, pas pour d'autres. Moi, je peux te dire, sur les mêmes. Et dans une diversité, alors là, absolue. Hein, absolument extraordinaire de voir. Moi, c'est une chose qui me surprend le plus. C'est de voir à quel point c'est vrai. Là, quand je le dis, ça paraît théorique, mais sur le terrain, c'est spectaculaire. Par exemple, oui.
Il y a un moment où ils plafonneront à un certain degré, il faut qu'ils passent par une
oui,
période
ils plafonnent, de chasteté. Ils plafonnent.
Ils vivent la
chasteté. Ils la chasteté, oui, parce que s'ils plafonnent à un certain degré passionnel, ils sont amoureux, ils sont bien, bon, et ils sont amoureux, quoi, hein, bon. De temps en temps, des moments de tristesse, etc. C'est une passion aussi, tu vois. Mais passion du concupiscible. Il y a 11 passions, hein. Combien du concupiscible, combien d'irascible, IPC 4
et
4. 4 et... Ah non, ça fait 11 en tout. 4 et 4, ça fait 8. Ouais. Bon, tu réviseras tes cours, hein. D'Isabelle Matona. Bon, de Bénédicte Matona. Voilà. Alors, donc, vous voyez... Et ils vivent comme ça, ils plafonnent et un petit mélange de passion amoureuse, de passion de tristesse. Mais la passion de tristesse est merveilleuse parce que on vit quelque chose. On est triste, etc. Et ça, comme ça, on vit pour l'instant, là, quelque chose.
Non-chrétien, je comprends qu'il puisse y avoir la matière, mais il
n'y
a jamais la forme.
Il n'y a jamais la forme. Si, parce qu'ils se marient à un moment donné, ils s'engagent mutuellement jusqu'à la mort. Devant ce qui pour eux représente l'absolu, devant la nature, devant les hommes. Pardon ?
La forme, c'est la parole du prêtre aussi.
Non, le prêtre ne donne pas la forme du sacrement. Le ministre et le prêtre dans le sacrement de mariage, c'est l'époux et l'épouse qui sont le prêtre du sacrement de mariage. S'il y a un prêtre ça, c'est ministériel qui est là, c'est uniquement pour. Non, pas pour bénir, pour témoigner et écrire sur le registre. Mais le sacrement est donné par le ministère de l'époux et de l'épouse qui joue le rôle du prêtre à ce moment-là. C'est pour ça qu'un diacre peut marier. Enfin, un diacre peut assister à un mariage. Donc on ne dit pas qu'un prêtre marie quelqu'un, un prêtre assiste à un mariage. C'est pas du tout pareil. Bon, en tout cas... C'est évident que lorsqu'on est dans un état passionnel, pour continuer, Marie-Caroline, n'est-ce pas ? Christine ? Oui, Madame Marie-Caroline, c'est là.
C'est mon mari.
Donc, si tu veux crever les plafonds du point de vue passionnel, tu dois vivre chastement. Si tu veux crever les plafonds de la dimension passionnelle, tu dois vivre chastement. Si tu veux crever les plafonds. Des déviations, tu dois vivre en dehors du point de vue passionnel. Tu dois à chaque fois couper, si tu veux, les parties antérieures. Hein? Sans y renoncer, puisque tu les vis de manière... Tu vis donc du corps, par la chasteté, tu vis du corps dans sa dimension sexuelle la plus humaine qui soit, comme j'ai essayé de vous l'expliquer hier. Dans cette partie où la sexualité joue son rôle de finalité principale, c'est-à-dire de conjonction du corps avec ce qu'il y a de plus intime dans l'âme. C'est l'âme se conjoint le corps pour donner une énergie et une puissance au don intérieur qu'elle n'aurait pas sans cela. D'accord ? Alors, les degrés où la matière commence à apparaître maintenant, la matière du sacrement commence à apparaître lorsqu'il y en a un des deux qui aime l'autre. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas d'amour. Contrairement à ce qu'on croit. Il n'y avait pas d'amour. Il y avait de vagues sentiments. Et il y avait de la transpiration, des odeurs, des voix, des tremblements, des vibrations. Il y avait de l'éros, il y avait tout ça. Il y avait tout ça. Il y avait de l'élan, il y avait de la générosité, mais il n'y avait pas d'amour. L'amour apparaît lorsque c'est l'autre que j'aime, c'est lui que je choisis et moi je n'existe plus. L'amour, l'or est la seule réalité existante que nous expérimentons dans la finalité naturelle, soit se trouve dans le dépassement du même, dans l'extase. L'extase, c'est cette espèce de fait que je n'existe plus, je ne vis plus, il n'y a que l'autre qui vit. Il n'y a que l'autre. Et même si je dois en crever, ça ne fait rien. Ça m'est complètement égal. Même si je dois me torturer, m'arracher les yeux, ça ne fait rien. C'est lui que j'aime. J'ai l'impression qu'il ne m'aime plus. Qu'est-ce que je m'en fous ? Je l'aime. Vous voyez ? C'est pas mon problème. Je l'aime. Je l'aime, c'est tout. Je ne cherche pas à comprendre. Je l'aime. C'est vraiment... Il m'attire et je le choisis comme finalité de toute ma vie, quoi qu'il arrive, pour le meilleur, pour le pire. Dans le bonheur, très bien. Le sentiment, c'est tout ce que tu veux. S'il y en a, c'est très bien. On va pas jeter la poubelle, mais pour le malheur, ça va être comme ça. Et l'amour et la mort sont une seule chose. Ce que je dis toujours à Montpellier, l'amour et la mort sont une seule chose. L'amour implique la mort. Plus que l'autre, je donne tout à l'autre. Et c'est exactement pour ça que dans la très sainte Trinité, l'amour et la mort sont une seule chose. Puisque tu vois que quand le Père donne dans sa fécondité au Verbe d'être le Verbe, il donne au Verbe d'être tout entier Dieu. Et j'allais dire, le Père pulvérisé littéralement. Qu'il aime donc le Verbe d'une manière tellement forte qu'il est pulvérisé, il n'existe plus, il n'existe que le Verbe, et c'est à cause de ça que le Verbe est Dieu à lui tout seul. Et si le Père subsiste et continue d'exister et de vivre, c'est parce que le Verbe assure cette même réciprocité dans le don, et que le Verbe meurt littéralement, expire littéralement dans le sein du Père, et fait que le Père est Dieu à lui tout entier. C'est pour ça que quand le Verbe s'est incarné, lorsqu'il a fallu revivre ça, il devait passer par la mort. C'est mort d'amour, la mort du Christ. Il n'est pas mort parce qu'on l'a crucifié. Ça fait partie de la foi. Il est mort, c'est une mort d'amour pour le Père. C'est littéralement donné au Père dans un amour si puissant que c'était la mort elle-même qui était là. Et les deux dons se conjoignent, se rencontrent perpétuellement pour constituer évidemment une seule donation. C'est pour ça qu'on dit du Saint-Esprit qu'il est le don. C'est un père qui dit ça. Donc celui qui joue le rôle de l'époux, hein, c'est le père. Celui qui joue le rôle de l'épouse, c'est le fils. Et celui qui joue le rôle d'une seule sphère, c'est l'Esprit Saint. C'est ainsi que le Saint-Père dit, et c'est là le nœud justement de ce que le Saint-Père explique au niveau du corps de l'homme et du corps de la femme, et même de l'homme et de la femme. Ils sont créés à l'image de Dieu parce qu'ils sont homme, femme, une seule chair, l'image de la très sainte Trinité. C'est pas du tout classique hein, comme interprétation, ça vient du Saint-Père. J'ai fait moi-même la recherche, je crois que ça a été dit une fois par un père de l'Orient. Mais vaguement, à peu près, je ne sais plus, au 6e siècle. Sinon, ça n'a jamais été dit. On disait toujours que Dieu a créé l'homme à son image parce qu'il était intelligence, volonté et puissance de liberté. En ce sens, il était créé à l'image de Dieu. Donc c'est le Saint-Père qui dit que c'est plus homme, femme, une seule chair, l'image de la très sainte Trinité. C'est assez fou, hein, assez extraordinaire, c'est pour ça. Donc pourquoi est-ce que je disais ça? Où est-ce qu'on en était aux questions, là? Donc l'amour et la mort sont une seule chose, c'est ça que je disais. Donc, vous voyez, dans l'amour, quand l'amour humain apparaît, l'amitié apparaît, je suis littéralement tellement pris par l'autre qui est mon bien, je le choisis tellement comme étant ma fin, je finalise toute ma vie et finalisée par l'autre, que je ne suis plus finalisé par moi-même du tout. Et donc de ce point de vue-là, puisque c'est la finalité qui fait ma vie, ben, du point de vue de mon autonomie dans l'ordre de la vie, je suis mort. Ben, ça se calcule, si vous voulez, je le pose ici, c'est que je suis prêt à tout. Si
si je me marie uniquement parce qu'elle est belle, vous elle est belle. Et si elle a un accident 15 jours après et qu'il la défigure, je continue à l'aimer. Je suis prêt à tout. Je suis prêt absolument à tout. Même si ça doit être un enfer. Alors, dans ce premier degré, alors si y a ça, ça marche seulement d'un seul côté. Il y a sacrement. La matière du sacrement suffit qu'il y ait ceci d'un seul côté. Évidemment, c'est un peu usant, ça arrive souvent. Non, mais ça suffit. Ça suffit pour qu'il y ait matière du sacrement. Il suffit que dans la relation, il y ait au moins un aspect humain. Donc s'il y a d'un côté, c'est bon. Le mariage est indissoluble. L'amitié apparaît lorsque ceci est réciproque. Le degré suivant, c'est lorsque j'ai une maturité suffisante pour pouvoir me voir moi-même dans l'adoration, dans la lumière du Créateur. Et du coup, dans la lumière du Créateur, voir celui que j'aime, dans la lumière du Créateur, au-delà de cette destinée terrestre. Mais je le vois dans sa splendeur, sa destinée au-delà de cette terre. Et donc je suis, j'allais dire, mort, je meurs, j'allais dire, littéralement. Et je vois que je suis beaucoup plus lié à lui dans son aspect d'éternité que dans son aspect, je trouve, à travers le présent, par le Créateur, son éternité, sa ligne rouge de son âme qui le relie à sa splendeur définitive au-delà de cette terre. Et c'est ça que j'aime en lui, et je me mets au service de sa sainteté. Au service de ça, enfin, ça c'est le 23e degré. Le 24e, c'est quand c'est réciproque, bien sûr. 25, voilà, ça c'est le degré humain, naturel. Tout ça c'est naturel. Pas besoin d'être chrétien, pas besoin d'être musulman pour ça. Il suffit que je sois philosophe pour vivre ça. Et après, il va y avoir les degrés, 9 degrés d'orientation, d'approfondissement, de surenchérissement infini de cette relation, par la grâce. Alors vous avez la foi, l'espérance, la charité, le sacrement. Le sacrement de mariage qui fait qu'il y a le Christ et l'Église. Et puis les 7 dons du Saint-Esprit. Les 7 dons du Saint-Esprit constituent des orientations différentes qui approfondissent. Je vais vous donner un exemple que j'aime bien donner. Par exemple, pour don d'intelligence. Comment est-ce que dans la relation conjugale, on va vivre du don d'intelligence? Ça va être très intéressant. Un jour, j'avais été descendu à Lunel, à Montpellier, et j'avais donné, descendu avec le petit livret bleu que vous avez dans la poche sur la salette. J'étais voir ma sœur, une de mes sœurs, et on avait lu ensemble le message de la salette en disant c'est super ce message, regarde et tout, la mystique de la famille. Alors on a lu le message, et puis on a parlé donc de la Vierge, et puis de l'Eucharistie, en disant qu'évidemment à chaque Eucharistie, c'était une réunion de fête, une assemblée de myriades d'anges, un sacrifice plus parfait que celui d'Abraham, un sang plus pur que celui d'Abel, une gloire plus parfaite que celle du Sinaï, etc. Vous avez ce passage, on avait regardé ça. Enfin, moi j'étais parti, c'est les conversations que j'ai avec mes sœurs. Ça. Alors on prend notre pied. C'est pour ça que je dis toujours ma chérie à tout le monde, parce qu'avec mes sœurs, on dit toujours « Ah, ma chérie, t'es là, moi. » Alors, je suis parti, 6 mois après, je la revois. Je me dis « Ah, tu sais pas, un truc fou, c'est passé, et bon, le lendemain ou le soir, je sais plus, tu sois parti, après que tu sois parti. » Je suis rentré en état de grâce. Alors, je me dis « Ah bon, tu es rentré en état de grâce. J'espère que tu y es toujours. » Parce qu'il faut garder l'état de grâce absolument, une bonne confession pour l'en trouver. Non, je suis rentré en état de grâce. Oh, oh là là, ça commence à m'inquiéter. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle dit que ça veut dire quoi? Alors elle a dit, tout d'un coup, ça y est, j'étais au ciel. J'étais au ciel, je voyais tout. Je voyais absolument tout. Je comprenais tout. Elle n'a jamais fait de théologie. Hein. Alors je voyais tout, elle m'a expliqué qu'elle voyait que...
Vous voyez, comprenez la Trinité. Elle voyait la Trinité. Elle voyait que le Père émanait du Père le Fils. Elle le voyait très très bien, dans l'omniprésence, dans les termes. C'est complètement à partir d'elle. Elle voyait ça. Et le Fils, le Verbe, qui se reconjoignait littéralement dans une fusion invraisemblable et qui faisait que, d'une manière, j'allais dire presque passive, il y avait une espèce de fulguration, de fécondation, de conception, de création, de constitution. Enfin, l'Esprit Saint y procédait. Elle l'expliquait, elle le voyait. Donc elle était complètement prise à l'intersection du lieu de rencontre du Père et du Fils. Elle était fondue dans la fusion des deux, là où l'Esprit Saint procède. Elle voyait ça de manière nette. C'est intéressant. C'est une grâce. C'est pas un état de grâce, c'est une grâce actuelle. C'est pas une grâce sanctifiante. Actuelle. Ben, c'était une mission du Saint-Esprit, comme je vous ai parlé. L'esprit d'intelligence a été envoyé. Alors je me suis dit, voyons, après Saint Thomas, 10 minutes. Alors je me suis dit, combien ça a duré 10 minutes. Deux mois, ça a duré. Tout le temps. Oh, elle m'a dit c'était fou, mais je me prenais dans les rues, je voyais tout le monde, je voyais tout le corps. Mon Dieu, le voyait, c'est extraordinaire. Et mais dis donc, et la cuisine. Et la cuisine. Ah, j'ai jamais fait de si bonne cuisine, jamais, j'avais même pas réfléchi, tac, dans l'art monnaie, et la messe conjugale le soir sur l'autel du lit conjugal. Ah, bah alors là. Alors du coup, j'ai fait la vérification auprès du beau-frère. Eh bien, Étienne, viens. Ça m'intéresse quand même. Ça va. Est-ce que tu te rappelles qu'il y a quelques mois, il y a eu. Oh, tu te rappelles. Bien sûr. Parce que normalement, quand même, la femme est médiatrice dans l'ordre de l'amour. Donc, comme la femme est médiatrice dans l'ordre de l'amour, vous comprenez bien que si elle est médiatrice dans l'ordre de l'amour, puisqu'elle vivait l'amour à ce 31e degré, sur les 33, c'est fou, à 31e degré, normalement, par le corps, chair contre chair, c'était juste sur son ampoule, Comme elle vivait cet amour, elle éprouvait cet amour à ce degré-là, puisqu'elle est médiatrice dans l'ordre de l'amour, forcément, ça a dû être par le corps, je dis bien par le corps, par l'étreinte conjugale. Pour Étienne, ça devait être pour son mari, une révélation extraordinaire. Je veux dire, on va vérifier, c'est ce que dit Saint-Père. Vous voyez ? Méthode scientifique. Saint-Père dit ça, et je veux vérifier.
Est-ce qu'il faut d'avoir décalage ?
Il y avait des cas, puisque lui, il n'était pas du tout dans cet état. Absolument. C'est pour ça. Elle est médiatrice dans l'ordre de l'amour. La femme est toujours médiatrice dans l'ordre de l'amour. Lui, il aurait vécu ça et pas elle, ça n'aurait rien fait du tout. Parce que je connais d'autres exemples précis dans ma famille. Ça passe pas du tout. Parce que là, je vous donne un exemple, vous savez, j'en ai des centaines. Hein, parce que j'interroge toujours. C'est sur ça. Et en détail, parce que. Oui, c'est normal. Alors, sinon, j'interroge le Saint-Père, puis après je vérifie sur mon petit laboratoire portatif. Ça, c'est très intéressant. Et, alors je dis à Étienne, c'est pour ça que je demande un prénom, je dis à Étienne, pardon de demander.
Ben voyons.
Normalement, ça devait produire donc, si ce que le Saint-Père est juste, une communication, une révélation dans son cœur à lui, le chrétien, sur cette possibilité, c'est-à-dire de vivre dans un état mystique de contemplation de la très sainte Trinité, la relation conjugale elle-même. C'était l'Esprit Saint qui était le moteur principal de la relation corporelle conjugale. Ah, on va vérifier ça, c'est très intéressant. Alors, je pose des questions. Ah, si je m'en rappelle, on est bien sûr. Denis, mais est-ce que tu as, à travers justement la relation conjugale, est-ce qu'elle vivait quelque chose au point de vue contemplation?
Ah bah oui.
Mais est-ce que toi, tu as saisi, éprouvé quelque chose de semblable sur la très sainte Trinité?
Immédiatement, non.
Mais il m'a dit, à travers la relation conjugale, oui.
Oui, c'est intéressant. Autrement dit, vous voyez, à travers la relation conjugale, normalement, la vie chrétienne consiste à vivre la relation conjugale à ce degré. On n'a pas le droit, dans le sacrement de mariage, de vivre la relation conjugale en dehors de ce degré. On n'a pas le droit.